Upload UTC, l'université populaire du libre, ouverte, accessible, décentralisée, à l'UTC. Avec les étudiants de WE01, encadrés par Stéphane Croza et Quentin Duchemin.
Et rebonjour à toutes et à tous, vous êtes toujours sur Graphite 94.9 pour la dernière émission de cette semaine consacrée au cours WE01 questionné, le web de l'UTC. Et donc toujours dans cette émission, des étudiantes viennent vous présenter le résultat de leurs travaux de recherche de ce semestre qui porte sur tout un tas de questions en rapport avec le web, plus généralement avec le numérique. Et pour cette dernière émission, je suis avec Alexia, Rami et Noura. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour.
Et deux étudiants que j'accueillerai juste après vous, puisque vous avez cours avant, il faut que vous partiez. Donc on va sans plus tarder en fait vous laisser la parole pour commencer votre rapport.
Depuis quelques mois, on perçoit un rapprochement entre le secteur de la défense américaine et les grandes entreprises de la tech. En effet, les États-Unis ont déjà annoncé des contrats avec les entreprises de la tech pour développer la technologie de leur armée. Alex Karp, le fondateur de Palantir, affirme que d'autres entreprises sont en train de modifier leurs valeurs pour profiter de ce rapprochement. L'historienne Margaret O'Mara décrit ce développement comme un retour aux sources.
C'est qui ces entreprises? Qui s'allient à l'armée?
Des grands noms du marché de la tech américaine, de façon plus ou moins opportuniste, ont ajouté le patriotisme et la défense nationale à leurs valeurs pour changer leur position. Comme Google, en 2018, avait arrêté le projet Maven, un programme d'IA pour le Pentagone sous la pression de ses employés. Alors qu'aujourd'hui, elle est en train de modifier ses principes éthiques et ses valeurs pour pouvoir profiter de l'immense investissement que fait le département de la défense des États-Unis dans ses contrats militaires. On parle de 200 millions de dollars par contrat. De même, Meta saute sur l'opportunité et obtient des contrats avec l'armée pour développer des casques, lui donner accès à leur modèle d'intelligence artificielle, Llama, et s'associer avec d'autres startups déjà en relation avec le secteur de la défense, comme Enduril, tout comme OpenAI avec Palantir. Même en France, on observe la puissance de cet effet domino avec l'association de Mistral AI et une entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle française et de l'entreprise de la défense allemande Helsing.
Mais pourquoi ce changement maintenant ?
Selon un professeur d'histoire à l'université de Washington, ce bouleversement dans ces deux secteurs est expliqué par le fait que les armes ont changé et se tournent dorénavant vers le logiciel, comme l'intelligence artificielle, les drones, etc. De plus, les conflits internationaux ont servi et servent encore de laboratoire et de vitrine pour tester les innovations et leurs prototypes, notamment en Ukraine et à Gaza. De plus, le retour de Donald Trump en pouvoir en 2024 et le nouveau budget de 1 000 milliards de dollars pour 2026 destiné aux armées, soit une augmentation de 13%, ont augmenté l'intérêt qu'ont les entreprises à s'associer à la défense.
Peut-on craindre une bataille économique ?
Déjà, les startups mentionnées et les nouveaux venus dans le secteur de la défense sont plus valorisés que les anciens acteurs comme Lockheed Martin, par exemple, alors que ces anciens captent encore plus de 95% des contrats. Ainsi, ces entreprises innovantes sont en train de pousser à une réforme et utilisent leur valorisation élevée pour susciter la confiance.
Existe-t-il donc des risques, notamment éthiques ?
D'après Alexandre Picard, l'auteur de l'article, des questions éthiques peuvent être soulevées sur ce changement, liées principalement à l'abandon de lignes rouges de certaines entreprises, au risque de développer des armes autonomes et à la possibilité que les entreprises commencent à influencer profondément les stratégies militaires pour des fins économiques personnelles. Nous avons choisi de développer le concept de capitalisme de surveillance développé dans l'UVWE01.
Shoshana Zuboff est une chercheuse américaine, professeure émérite à la Harvard Business School. En 2016, elle publie « L'âge du capitalisme de surveillance », un best-seller qui participe à populariser le concept.
Le capitalisme de surveillance, selon Zuboff, est une nouvelle forme de capitalisme. Pour elle, contrairement au capitalisme industriel, qui se sert de ressources naturelles comme matières premières, le capitalisme de surveillance revendique la nature humaine comme matériau pour créer une nouvelle marchandise.
Zuboff perçoit une rupture entre le capitalisme industriel et le capitalisme de surveillance car selon elle, vendre des prédictions de leur comportement est moins lucratif que répondre aux besoins des consommateurs. Le capitalisme de surveillance s'appuie donc sur le surplus comportementale, c'est-à-dire sur la rentabilité des prédictions comportementales produites par les algorithmes de grandes plateformes, et conséquemment sur le fait que la volonté du sujet peut être détournée par le commerce, car ces prédictions peuvent, d'après Zuboff, être utilisées pour manipuler les consommateurs.
Selon les sociologues et historiens Foster et McChesney, les GAFAM collaborent étroitement avec les programmes de surveillance étatique. Leur coopération avec le bras répressif de l'État à travers les pôles de renseignement, de police et de l'armée renforce l'État secret de sécurité nationale, les parties invisibles, opaques et opérant en secret de l'État. La divulgation du programme PRISM, un programme américain de collecte de renseignements de la NSA, grâce à Edward Snowden, témoigne de cette coopération entre le militaire et l'étatique. Ce programme donnait à la NSA un accès direct aux données hébergées par les géants américains comme Google, Facebook, Microsoft et Apple.
La question des conséquences du capitalisme de surveillance est très débattue dans la littérature, tant son périmètre est large. Les publications d'Ivan Manoka s'intéressent, par exemple, à l'impact de la surveillance en elle-même sur les populations, en partant de l'hypothèse déjà ancienne que l'on n'agit pas pareil quand on se sait surveiller.
De son côté, Zuboff pense qu'il constitue une menace démocratique pour la société. Plus généralement, la question du numérique et de ses impacts dépasse le cadre universitaire. Des médias comme France Info ou L'Humanité ont publié des enquêtes sur les atteintes environnementales et humaines liées à l'extraction des matières premières nécessaires à la fabrication de tous les objets numériques, qui font l'objet de tensions importantes, en particulier car ces ressources sont sous terre, en quantité limitée et concentrée dans quelques pays.
L'article fait écho au processus décrit par Zuboff et en premier lieu par rapport à la collecte de la matière première, les données. L'utilisation d'une situation réelle comme lieu de test des produits s'inscrit dans cette étape de collecte de la matière première. En effet, les entreprises Starlink et Palantir se sont servies de la guerre en Ukraine comme laboratoire afin de récupérer les résultats des tests de leurs terminaux et logiciels menés en situation non simulée. Les entreprises, à travers ces tests, ont fait une démonstration de l'essor de ces technologies. Selon le magazine Time, Palantir aurait fourni des logiciels d'analyse de données ainsi que des drones pour aider les soldats ukrainiens en cartographiant, en planifiant des évacuations par exemple.
En revanche, tout au long de son travail, Zuboff s'est uniquement concentré sur l'aspect privé et commercial de cette logique d'excédent et d'approfondissement des données. Or, dans cet article, Alexandre Picard ne parle que de données militaires, obtenues grâce à des tests sur des combattants, sur des situations de combat et sur du matériel de défense. Le capitalisme de surveillance, tel que décrit par Zuboff, tend déjà à dépasser la sphère privée en gagnant des domaines qui incombent traditionnellement l'État, comme la défense ou la conduite de la guerre. Néanmoins, cette dissonance n'efface pas la continuité fonctionnelle du capitalisme de surveillance entre les domaines civils et militaires. Les mécanismes de ce capitalisme sont semblables et les applications et savoirs dans l'un des deux domaines peuvent être transférables dans l'autre domaine par exemple.
L'approfondissement évoqué par Zuboff semble trouver écho dans la réalisation de casques de réalité augmentée. En effet, l'entreprise Enduril se sert de drones pour capter les données du terrain, la situation et la stratégie militaire développée, ainsi que le comportement des combattants dont le but de les traiter et les analyser. Le but final de cette collecte étant la fabrication et la programmation d'un produit final, dans ce cas présent, des casques de réalité augmentée, qui coûteraient entre 20 000 et 40 000 dollars chacun, selon le PDG d'Enduril.
Cette logique d'amélioration de la situation du soldat s'inscrit dans le concept de la plus-value, associé au capitalisme traditionnel et repris par Zuboff. En proposant leurs produits aux armées, les entreprises de la tech tendent à devenir les nouveaux bras armés technologiques de l'État américain, pour défendre les intérêts nationaux notamment. On parle de sécurité du territoire et des citoyens, ou encore de protection des infrastructures. Cependant, cette évolution perturbe le secteur économique car le logiciel possède aujourd'hui plus de valeur que le savoir-faire. On peut entendre par savoir-faire les compétences techniques que possèdent les entreprises qui produisent le matériel de défense, comme des avions de combat par exemple. Conséquemment, les entreprises de la tech, appelées les disrupteurs, pèsent économiquement plus lourd que les grands groupes de défense historiques. Par exemple, la capitalisation boursière du groupe Lockheed Martin en 2025 est de 100 milliards de dollars, tandis que les capitalisations boursières de Palantir et SpaceX sont respectivement de 380, 386 milliards et 380 milliards de dollars respectivement à la même date. Merci de nous avoir écoutés.
Merci beaucoup pour votre présentation et votre travail. On va passer du coup une musique pour attendre un petit peu les questions. Vous avez choisi une musique, c'est
celle de Top Gun.
Scène de Top Gun. OK, c'est parti. Et on est de retour du coup pour une question qu'a posée Myriam sur Mattermost, c'est de savoir, est-ce que vous avez un exemple où le capitalisme de surveillance s'applique dans le domaine plutôt civil ?
On pourrait plutôt penser aux publicités ciblées que la plupart des jeunes croisent sur les réseaux sociaux, comme Facebook, Instagram, Twitter. Ces publicités, elles permettent à l'entreprise de récolter des données de préférentielles et des données sur le comportement des individus. Ensuite, ils les traitent, ces données, ils les analysent et ils espèrent en tirer des modèles et des prédictions qu'ils renvoient sur ces réseaux pour pouvoir essayer de créer chez l'acheteur une envie de consommer et ainsi générer de la plus-value. Donc les publicités seraient un bon exemple.
Mais merci beaucoup pour votre réponse. Je vous laisse tranquillement partir pendant que l'autre groupe s'installe. Je vais remettre Top Gun en attendant que vous fassiez la transition. Merci encore à vous. Bon après-midi. On se retrouve.
Merci beaucoup.
Allez, 15-30 secondes. Et on reprend du coup pour la deuxième partie de l'émission. Maintenant que vous êtes installés, je ne vous ai pas encore présenté. Bonjour à vous, Jean-Baptiste et Titouan.
Bonjour. Salut.
Et bah écoutez, c'est parti directement, puisqu'on est un petit peu en retard, donc je vous laisse la parole.
On va vous parler d'un article publié sur le journal The Atlantic en avril 2024 qui explique comment Facebook aiderait Trump à remporter les élections présidentielles. On expliquera aussi le concept de société algorithmique qu'on articulera avec l'article ensuite.
En 2016, Donald Trump se présente aux élections présidentielles des États-Unis. Son équipe de communication investit massivement dans des publicités sur le réseau social Facebook. Pendant que la rivale principale de Trump, en 2016, Hillary Clinton, achète déjà 60 000 publicités, le républicain en achète 5,9 millions sur l'ensemble du temps d'élection. Rien qu'entre juin et novembre 2016, l'équipe de Trump dépense 44 millions de dollars uniquement dans des annonces Facebook. Facebook garde une archive ouverte à tous pendant 7 ans des annonces diffusées sur sa plateforme. Il était donc possible de consulter jusqu'en 2023 toutes les annonces de Trump. Ses publicités sont très simples, ennuyeuses et oubliables, d'après l'article. On y voit Trump qui applaudit ou qui sourit devant un micro, le tout sur un fond bleu ou rouge. En fait, l'équipe de Trump a investi plusieurs millions dans Facebook pour le modèle de publicité que la plateforme propose.
Traditionnellement, un annonceur payait un emplacement fixe dans un journal, dans la rue ou sur un site internet. C'est-à-dire que c'était l'annonceur qui était responsable de trouver son public. Concrètement, une entreprise de vêtements fait elle-même le choix d'acheter un emplacement dans un magazine de mode pour cibler ses potentiels clients. Facebook propose un autre système dans lequel l'annonce n'est plus fixe, ni statique. Ce n'est plus le publicitaire qui choisit stratégiquement où placer son annonce, mais un algorithme mis à disposition par Facebook. L'annonceur partage une liste d'éventuels clients, puis c'est une IA qui se charge de trouver où, quand et sous quel format afficher les publicités. Ce système est censé offrir un meilleur retour sur investissement pour trois raisons. D'abord, l'IA utilise plus de 2 millions de critères pour déterminer quel public est intéressé pour chaque annonce. Ensuite, chaque utilisateur est ciblé individuellement, contrairement à un emplacement publicitaire dans la rue par exemple. Enfin, l'algorithme prédit des profils lookalike, des profils similaires, ce qui permet d'étendre continuellement la base de données des clients potentiels. En somme, le modèle de Facebook promet un ciblage plus vaste et plus précis de la clientèle d'un annonceur.
L'équipe de Trump plonge dans ce nouveau modèle. Le chef du département publicité chez Facebook, Andrew Bosworth, écrit en 2016, je cite, « Trump a élaboré la meilleure campagne publicitaire digitale que je n'ai jamais vue ». Mais le système de publicité de Facebook reste marqué d'une imprévisibilité. Tandis qu'une annonce traditionnelle dans un journal est bien réelle, les publicités Facebook ont un caractère virtuel. Rien ne garantit qu'elles soient affichées et qu'elles fonctionnent bien, bel et bien. La stratégie de communication de Trump a été retransmise à une intelligence artificielle dont le fonctionnement est non seulement opaque, mais surtout en constante fluctuation. Le publicitaire Néal Kazim explique que les annonces Facebook semblent être comme misées au casino. Trump aurait donc joué 5,9 millions de fois au casino Facebook et inévitablement gagné. Gagner l'attention d'un très large public, c'est-à-dire un facteur crucial, d'après l'article, de sa victoire.
Mais j'en connais déjà les dangers, moi j'ai gardé mon ticket, s'il le faut je vais les changer moi. Et s'il le faut j'irai me venger moi, cet oiseau de malheur je le mets en cage, je le fais chanter moi.
En 1464, sous Louis XI, sont créés les postes royales. C'est un réseau provisoire qui achemine les messages et les correspondances royales au théâtre d'opérations militaires. Le roi ordonne la surveillance des courriers, c'est-à-dire que les lettres sont décachetées et lues par des agents du pouvoir. 506 ans plus tard, en 1970, la NSA, donc l'Agence de sécurité nationale des États-Unis, lance le programme Échelon avec la Grande-Bretagne, le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Il vise à intercepter les communications satellites civiles pour les analyser. À de nombreuses reprises dans l'histoire, les États ont collecté des données sur leur peuple, comme les deux exemples présentés le montrent. D'après le philosophe français Foucault, connu pour ses critiques des institutions sociales, je cite, « Le gouvernement ne saurait donc se limiter à la seule application des principes généraux de raison, de sagesse et de prudence. Un savoir spécifique est nécessaire. Un savoir concret, précis et mesuré se rapportant à la puissance de l'État. »
Cela donnerait du sens à une collecte de données dont on pourrait extraire des informations clés pour diriger l'État en accord avec le peuple. Les innovations technologiques comme la tabulatrice, une machine à trier des informations utilisant les cartes perforées, ont, au cours du temps, augmenté la capacité des États à analyser les données collectées, ce qui a amplifié la récolte de données. Puis, la demande de technologies de traitement plus puissantes qu'il faut rentabiliser en exploitant encore plus de données. Cette boucle de rétroaction positive, c'est-à-dire où la collecte de données et l'innovation dans le traitement s'entraînent l'une et l'autre, amène les États à établir une surveillance de masse. C'est ça le concept de société algorithmique. Une généralisation de l'utilisation d'algorithmes par les pouvoirs publics, tant pour la régulation que le contrôle, grâce à la production automatisée de prédictions et de décisions à partir des données issues de la surveillance de masse.
Se pose alors la question de l'utilisation faite des algorithmes. D'un côté, une collecte de données pourrait permettre d'aider la société. L'État français compte pouvoir prédire les crimes, comme dans le film Minority Report, avec son projet d'anticipation des délits, PAVED. Il cherche aussi à détecter les piscines non déclarées, par exemple. L'État justifie ces initiatives en disant qu'elles sont bénéfiques pour l'ensemble de la société. La CAF opère des algorithmes de profilage et prédiction de fraude. Ceci affecte une note à chaque citoyen en fonction de la quasi-totalité des données relatives à leurs revenus, d'après la CNIL. Ce score permet ensuite, dans le discours officiel, de détecter le non-recours au droit, d'optimiser l'allocation de ressources et de lutter contre la fraude. Mais l'automatisation de ces procédés présente des défauts. D'abord, les algorithmes sont entraînés grâce à un certain ensemble de données gardées secrets. Si ces données sont peu représentatives de l'ensemble de la population, des biais vont être créés et des inégalités vont voir le jour. Les données d'entraînement des modèles machine learning ont exactement les mêmes biais que les humains. De plus, il est difficile de savoir qui tenir responsable d'une décision qui a été prise par un algorithme. Il y a alors une déresponsabilisation des décisions prises. Finalement, la société algorithmique fait le pari d'un développement basé sur des prédictions et décisions issues d'algorithmes au fonctionnement opaque, ce qui rappelle la campagne de Trump.
Le nouveau modèle publicitaire de Facebook repose sur un algorithme de machine learning. C'est-à-dire qu'il nécessite d'énormes quantités de données brutes destinées à être traitées pour produire le résultat attendu. Ici, c'est déterminer le maximum d'informations possibles sur chaque utilisateur pour lui afficher LA publicité qui saura attirer son attention. Ainsi, pour obtenir une IA théoriquement toujours plus performante, Facebook collecte toujours plus de données brutes sur ses utilisateurs. On a parlé des 2 millions de critères pris en compte tout à l'heure. Ceux-ci sont récoltés sur la plateforme, mais pas que. Facebook distribue des outils destinés aux développeurs gratuits qui permettent à des développeurs de monétiser leurs applications et sites web et analyser leurs audiences facilement. En échange, ces programmes communiquent les données des utilisateurs de ces sites ou applications à Meta. De cette manière, Facebook traque ses utilisateurs, même en dehors de sa plateforme. Facebook est ainsi devenu un empire de la collecte de données, des données qu'ils savent traiter ensuite, pour offrir l'un des meilleurs secteurs de publicité, et ça se reflète dans leurs bénéfices. D'après Statista, Meta, qui est la maison mère de Facebook, a généré 115 milliards de dollars en 2022, dont 98% grâce à la publicité. C'est un capital que la plateforme peut réinvestir dans des capacités de pistage des utilisateurs.
Trump s'inscrit pleinement dans ce processus avec ses publicités Facebook. Il a bénéficié de ce système en 2016 et l'a réutilisé encore en 2020. Il utilise la performance de Facebook à son avantage et n'a donc aucun intérêt à réguler la collection massive de données par Meta. On assiste donc à une symbiose entre le secteur public et le secteur privé. Facebook peut placer Trump au pouvoir en l'aidant à se visibiliser, ce qui constitue un avantage de taille dans une démocratie où la majorité choisit son chef. En retour, Facebook protège son monopole en s'assurant que sa collecte de données ne soit pas limitée et ainsi renforcer toujours plus son système. D'un point de vue citoyen, cette collaboration constitue d'abord une érosion de la confidentialité. avec une collecte de données de plus en plus invasive et non régulée. Mais c'est aussi une atteinte à la démocratie. Celle-ci s'effrite car c'est moins les idées des politiques qui détermineront leur popularité que l'argent qu'ils pourraient dépenser pour influencer les citoyens en leur faveur. En somme, les algorithmes pourraient aussi s'introduire petit à petit dans la politique, ce qui semblait jusqu'alors encore appartenir aux humains. Est-ce que ça ne serait pas là l'apogée de la société algorithmique, le moment où les algorithmes choisiraient qui monte au pouvoir ?
Merci beaucoup pour votre présentation et pour votre travail. J'ai une petite question qui m'est venue, mais voilà, si vous n'avez pas d'exemple, c'est vraiment pas grave du tout. Vous avez évoqué le fait que finalement il y avait une indétermination sur est-ce que les publicités, elles ont vraiment bien fonctionné ou pas pendant la campagne de Trump, parce qu'il y avait quelqu'un qui disait c'est génial, c'est la meilleure campagne, et d'autres qui disaient bon, en fait c'est un peu comme jouer au casino. Est-ce que vous savez si dans d'autres endroits de la société algorithmique, comme vous l'avez présenté, on a des évaluations de est-ce que c'est des outils qui, en tout cas, remplissent les objectifs annoncés ou pas. Et peut-être que, tout simplement, on n'en a pas trop à notre disposition et c'est bien aussi comme réponse.
Je pense déjà que le problème avec ces algorithmes, c'est que, comme on l'a dit, ils sont très souvent opaques. Donc, la plupart du temps, c'est compliqué de savoir, en ayant un résultat, le résultat fourni par l'algorithme, de comprendre d'où vient ce résultat. Donc même si les pubs de Trump, par exemple parmi un set de 50 pubs, il y en a une qui marche plus que les autres, ce sera très difficile de comprendre pourquoi celle-là a marché plus que les autres. Donc comme les critères ne sont pas... l'humain n'a pas accès aux critères, ça va être beaucoup plus dur de reproduire des pubs qui marchent ou même de comprendre pourquoi celle-là a marché.
Puis sur un autre niveau, les États, ils ont quand même beaucoup investi dans ces algorithmes. Et donc peut-être que si ça marche pas, ils n'ont pas intérêt à admettre que ça marche réellement pas.
Merci beaucoup pour vos réponses. C'est des pistes de réflexion très stimulantes. Allez, merci encore. On se retrouve pour encore une série de 2 heures d'émissions, 3 émissions, 6 groupes qui vous régaleront avec leurs trouvailles du semestre. Merci et on se retrouve dans 10 minutes. À tout à l'heure.